Histoire d'archives, c'est maintenant avec Jean-Christophe Labadie et la directrice adjointe. Bonjour.
Bonjour. Alors aujourd'hui, donc, c'est une journée un peu particulière puisque nous allons en fait évoquer notre programme culturel pour les mois de mai, juin et juillet. Voilà, donc on rentre maintenant, vous savez, dans une phase un peu plus active, sortant de l'hiver et débutant avec notre programmation. Alors c'est vrai que cette année, on avait commencé très tôt puisque dès janvier, on avait déjà proposé des activités culturelles à notre public. Mais là, on rentre vraiment dans le dur, si on peut dire. Et on va commencer ce cycle par ce qu'on avait évoqué finalement le mois dernier, les monuments aux morts. Et cette fois-ci, c'est celui de Thouars qui va être à l'honneur, puisque je ferai une conférence devant le monument dimanche prochain, donc le dimanche 7 mai à 11h, à côté du monument. Ce qui est toujours plus intéressant que le faire en salle. Parce que d'abord, on a le monument devant soi, donc c'est beaucoup plus simple à expliquer. Par ailleurs, moi, je me suis aperçu en faisant cette activité à Braux, par exemple, mais dans d'autres lieux aussi, je l'ai fait aussi à Ubraille, que les personnes ne regardent pas tellement les monuments, ne sont pas très attentifs. En fait, on le voit de manière globale, hein, vous savez, hein, c'est un peu la Gestalt théorie, on voit l'ensemble du monument et on ne cherche pas à voir ces détails. Et donc, c'est beaucoup plus facile pour moi, c'est beaucoup plus intéressant pour le public, hein, de commenter ce monument sur place. Alors,
sera à Digne, pardon.
Alors, sinon, ça sera à Thouars.
À Thouars,
voilà. À Thouars, donc le 7 mai à 11h, donc devant le monument. C'est plus intéressant parce que, en fait, ça me permet plusieurs choses. Ça me permet évidemment de décrire le monument, mais ça me permet aussi de le resituer dans un ensemble. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est vrai que souvent les gens me font cette réflexion après la conférence, me disent qu'en réalité, ce qui les a intéressés, certes, il y a le monument, évidemment, mais il y a aussi, justement, les comparaisons qu'on peut faire par rapport aux autres monuments du département, voir comment, en quoi il est atypique, en quoi il est différent, les problématiques qui s'imposaient à l'époque des monuments. Alors, j'en avais un peu évoqué le mois dernier, les problématiques, d'abord la forme du monument, son emplacement, hein, qui est très important, hein, je vous rappelais, un cimetière, place publique, église, les questions donc religieuses, hein, qui sont liées à ça, la question de la mort, puisque c'est quand même un monument aux morts. Donc voilà, donc il y a toutes ces questions qui sont abordées. Et puis il y a aussi, donc, ce que j'avais aussi évoqué, la question du décor du monument. Est-ce qu'il y a des signes religieux ou pas, etc. Donc c'est intéressant pour ça, ça permet vraiment de recontextualiser le monument dans l'ensemble des constructions des monuments, parce que je rappelle que dans les 248 communes qu'on avait à l'époque, hein, donc dans les Basses-Alpes, beaucoup évidemment ont construit, quasiment toutes les communes ont fait leur monument, alors monument soit un monument, soit une plaque, hein, évidemment, en fonction des moyens, etc. Voilà, donc ça permettra de parler. Alors je rappelle aussi que quand je fais un commentaire sur le monument, je parle aussi des morts, hein, c'est pas que le monument, donc ça sera aussi l'occasion de voir un petit peu les profils particuliers de ces morts. Il y en a quelques-uns qui sont fort intéressants. Hein, il y a des sujets, vous voyez, sur lesquels on accroche bien parce qu'on a beaucoup d'informations déjà, et puis parce qu'ils ont un peu une histoire singulière, hein, c'est-à-dire que parce que l'histoire commune, en fait, et quand on consulte les registres matricules, on est toujours frappé par ça. C'est-à-dire que vous avez quelquefois trois lignes, quatre lignes pour le combattant. Vous voyez, en gros, il a été mobilisé, mobilisé à telle date, donc des août, évidemment. Il est arrivé au corps à telle date, il est monté au front à telle date, et encore, ce n'est pas forcément spécifié. Et puis ensuite, il est mort à tel endroit. Vous voyez, donc des fois, vous avez trois lignes, vous n'avez rien du tout, quoi. Donc c'est vraiment, vous voyez, la mort la plus banale qui soit. Et puis quelquefois, vous avez des sujets qui ont déjà une carrière militaire, certains, vous voyez, qui se s'étaient engagés de manière volontaire avant la guerre, qui ont quelquefois sont encore sous les drapeaux quand la guerre se déclare, et qui donc évidemment ont un vécu militaire qu'on peut réussir à déterminer, et puis qui ont quelquefois aussi des distinctions, c'est-à-dire qu'en fait ils se sont fait remarquer lors de combats, donc ils ont une croix de guerre, et quand on a une croix de guerre, évidemment, on a une citation, donc on sait pourquoi il a eu cette croix de guerre, donc vous voyez, ça étoffe un peu. Hein, c'est, voilà. Et puis après, je fais quand même une étude statistique sur l'ensemble des morts. Donc, à Thouars, de mémoire, il y en a 30 qui sont sur le monument. Donc je fais une statistique pour savoir effectivement de, où ils servaient, dans quelle arme, infanterie, artillerie, et dans l'infanterie, s'ils étaient dans, dans l'infanterie de ligne, ce qu'on appelle l'infanterie de ligne, par exemple ici on avait le 3e régiment d'infanterie, et, ou dans, dans un régiment de réserve, par exemple le 203e régiment d'infanterie, ou parmi les chasseurs, hein, dans les bataillons de chasseurs, comme beaucoup de bases alpins, ou encore dans l'infanterie d'Afrique, ou dans l'infanterie coloniale. Voilà. Donc oui, tout ça, ça me permet de voir un petit peu différentes choses autour des monuments. Voilà, donc ça, c'est le premier rendez-vous du mois de mai. Voilà. La semaine suivante, enfin, dans la semaine, puisque là, on était dimanche, alors savoir si le dimanche est le premier jour de la semaine ou pas, ça, c'est un débat. Mais donc, dans la semaine, donc, le 11 mai, aux archives départementales, cette fois-ci, je change complètement de sujet. Et je fais un sujet sur lequel, pour lequel j'ai dû un peu travailler, puisque ce n'est pas dans mes, dans, mes, dans mes domaines de compétences a priori. C'est une conférence sur, sur les vêtements, hein, se vêtir, donc se protéger, s'affirmer, plaire. Alors c'est une conférence qui est faite à partir de clichés photographiques, hein, dont nos fonds sont très riches, hein, puisque je rappelle aussi, j'ai déjà évoqué par ailleurs, que nous possédons une très importante collection de plaques de verre photographiques. En général, ce sont des plaques de gélatino-bromure d'argent. Hein, c'était la technique utilisée à l'époque. C'est en général des plaques que les gens trouvent chez eux. Voilà. Donc on en a beaucoup. On nous en a donné. Là, l'année dernière, on nous a donné quasiment entre 3000. On a du mal encore à estimer parce qu'on n'a pas fait le décompte complet. Entre 3000 et 5000 négatifs. Alors c'est quelquefois aussi des négatifs... sur celluloïdes, hein, donc sur plastique en fait. Hein, donc voilà. Donc à partir de ces photos, donc je vais proposer une conférence sur les vêtements. Alors c'est un sujet assez difficile, contrairement à ce que vous pourrez penser, parce qu'il y a très peu d'études historiques sur le hein, sur ce thème. En fait, on sait évidemment à quoi sert le vêtement, hein, comme le titre dit, se protéger, hein, c'est la fonction première. C'est aussi s'affirmer, hein, dire voilà comment je suis. Bah, par exemple, tout simplement celui qui porte un uniforme. Hein, on a par exemple nous dans notre exposition Vial actuellement, on a un très beau notre inspecteur d'académie qui porte son uniforme, qui est tout à fait extraordinaire. Quoi, vraiment, voilà, on rêverait que nos inspecteurs d'académie portent les mêmes uniformes aujourd'hui. Et là, on verrait voilà. Hein, toute la prestance, voilà. Et puis plaire, évidemment, les vêtements c'est aussi, servent aussi à cela. Et donc, voilà. Après, la difficulté, c'est que il y a évidemment dans le vêtement, et ça on le sait, un vocabulaire très spécifique. Vous savez, hein, une robe peut se décliner sur plusieurs façons. Donc voilà. Donc c'est une conférence qui n'a pas été facile à construire. Mais il y a quand même, je dis, les photographies à regarder qui sont magnifiques. Hein, c'est un peu la même chose. J'avais fait à peu près le même type de conférence quand j'avais fait sur les jouets. J'avais fait donc à partir de photographies, donc pareil, de photographies, soit de photographies de famille, soit de photographies de photographes professionnels, hein, de studio. C'est un peu la même chose. Les jouets, c'est le même sujet. Hein, on a pas tellement d'études qui sont faites sur ce thème. Même si on a quand même des éléments. Et je rappelle que d'ailleurs, le musée de Salagon propose actuellement une exposition sur les jouets anciens, hein, qui est tout à fait remarquable. Mais voilà. Donc il y a toujours les personnes qui étaient venues voir les jouets. Donc j'avais quand même des informations, évidemment, mais avaient aussi le plaisir de regarder les enfants avec leurs jouets, du tricycle jusqu'au petit fusil, hein, puisqu'il y avait aussi tout cet appareil, de la petite brouette, vous voyez, à la dinette. Voilà, donc ben là, c'est un peu pareil. Alors, l'autre difficulté, quand on parle des vêtements, il y a la forme, mais aussi tout ce qui concerne la matière. Alors ça, évidemment, c'est quasiment impossible à déterminer avec, à part de la dentelle, vous voyez, quand on voit de la dentelle, mais c'est très difficile à déterminer par rapport à une photographie. Et puis, il y a un troisième sujet, c'est la couleur. Or, nos photographies sont en noir et blanc, donc sauf une petite surprise à la fin. Mais donc, du coup, c'est très compliqué, vous voyez. Voilà. Et quand j'ai consulté donc, les ouvrages qui traitent des vêtements, souvent, en réalité, Ils utilisent très très peu la photographie, mais ils utilisent beaucoup la peinture, puisque par définition, la peinture est en couleur, et donc on voit non seulement la forme, on peut déterminer même quelquefois la matière, grâce au talent du peintre, mais aussi, évidemment, la couleur. Et c'est frappant, vous voyez. Alors que moi, je ne dispose pas aux archives de tableaux qui montreraient une femme avec ses atours, vous voyez, avec sa robe de crinoline, la célèbre robe qu'on trouve très, très fréquemment sous Napoléon III. C'est un peu le point de départ, on part de là. Jusqu'aux robes, on va dire, plus déshabillées des années 30, des années 20 même, plutôt des années 20, parce que les années 30, fin des années 30, on commence à se rhabiller. Vous voyez, c'est un peu... Il n'y a pas des évolutions, voilà. Donc, et puis, quand je parle des vêtements, il y a aussi donc, la robe, la tenue, le textile, vous voyez, mais il y a aussi, évidemment, les chapeaux, donc les coiffes, en fait, les chaussures, etc. Vous voyez, donc il y a tous ces éléments qui seront abordés lors de cette conférence qui concerne aussi bien les hommes, les femmes que les enfants. Donc on aura tous ces thèmes qui seront montrés. Alors je dis aussi, pour ceux qui... vous savez, nous, on est toujours... amateurs d'archives, évidemment. Donc, pour ceux qui détiendraient chez eux des photographies anciennes, des archives qui concernent la vie familiale. Il y a deux jours, justement, on était sur ce sujet-là. Une personne qui va nous proposer, puisque ce n'est pas encore fait, sans doute des archives, dont d'ailleurs peut-être des vêtements. En l'occurrence un uniforme de gendarmerie, vous voyez, donc on est toujours amateur de ce genre de même si on conserve du papier, on conserve le papier, parchemin, etc., mais on s'intéresse aussi évidemment aux objets. On a aussi une très forte collection d'objets, et parmi les objets on a des vêtements. Alors, je ne vous parle pas des vêtements liturgiques qui sont en dépôt aux archives départementales, qui appartiennent aux communes, donc là on en a une quantité considérable, mais dans ma conférence je n'aborde pas ces sujets là, je reste plutôt sur les vêtements civils, en fait, civils et militaires, qu'on peut trouver dans les administrations, etc. À l'époque, les élèves aussi, les élèves de l'école normale, par exemple, avaient un uniforme, vous voyez, donc il y a tout ça qui sera abordé dans cette conférence. Voilà. Donc c'est, comme on l'a écrit, une promenade parmi les photographies anciennes. Voilà, on va se promener, se balader d'image en image. Voilà. Donc c'est vraiment toujours intéressant, puisque moi je ne me lasse pas de regarder les images. Vraiment, on trouve des foules de détails. Et d'ailleurs, à l'époque, quand je regardais ces images, et en particulier ces images de femmes que j'indexais pour les fonds qu'on avait rentrés, je m'étais dit qu'aussi il serait intéressant de faire un jour une conférence sur les bijoux. Oui, parce qu'en fait, alors je ne parle pas de l'étoile, évidemment, de Saint-Vincent qu'on trouve souvent, mais on voit aussi, on arrive à déterminer les bijoux. Et quelquefois, oui, en revenant sur 14-18, on a même quelquefois des femmes qui portent des broches avec la photographie de leur mari disparu. Vous voyez, donc oui, il y a comme ça... des médaillons, pas des broches, des médaillons.
Oui, on connaissait le médaillon.
Voilà, qui porte en médaillon. Alors, il y a des médaillons religieux, etc., mais il y a aussi des choses qui rappellent des souvenirs. Mm-hmm. Vous savez, la photographie a une double fonction, en fait. Elle rappelle l'absence, mais elle souligne... elle rappelle la présence, mais elle souligne l'absence aussi, en même temps. Oui, c'est ambivalent. Voilà. Troisième conférence... c'est une conférence alors qui m'a été suggérée par le président de l'ASA, du canal de Chaudol. Donc, alors vous savez, les ASA, ce sont les associations syndicales autorisées, en fait. C'est un vieux mouvement qu'on trouve au 19e siècle. Donc celle-ci est beaucoup plus récente, puisqu'on va fêter son centenaire cette année. Mais, le centenaire, pas de l'ASA, mais le centenaire du canal. En fait, ce sont des associations qui permettent en fait à des personnes privées, en l'occurrence, de se regrouper pour un but collectif, hein, voilà, et un bien commun. Et en l'occurrence, quand c'est un canal, ce qui est très très fréquent hein, dans nos régions, c'est pour évidemment l'arrosage, hein, pour tout simplement l'irrigation, l'arrosage des, enfin l'arrosage en l'occurrence des champs. Donc c'est une conférence alors qui est un peu singulière aussi. Vous voyez, je sors aussi un peu de ma zone de confort hein, d'une certaine manière. Où j'étais confronté à une double difficulté, d'abord le sujet lui-même, mais aussi la difficulté de trouver des archives. Car malheureusement, souvent, pour ces associations, on a très peu de choses. En fait, les archives sont conservées par des associations. Et donc, on a très peu d'éléments. On peut trouver, évidemment, l'autorisation de l'association, puisqu'elle est autorisée. Hein, donc, il y a une démarche administrative hein, qui a été faite. Mais souvent, on est un petit peu sec sur ces sujets-là. Mais là, la chance, en fait, que j'ai eue, c'est qu'en fait, cette inauguration hein, donc, de ce canal, puisque c'est mon propos au départ, qui a lieu donc le 13 septembre 1923, donc vous voyez, on est presque dans le centenaire, eh bien, cette inauguration, elle est le fait du ministre de l'Agriculture, hein, qui s'appelait Chéron, et qu'on surnommait d'ailleurs le père de l'agriculture, qui est venu 2 jours dans le département, hein, et qui donc a été... promené à droite et à gauche, hein, et qui en a profité donc pour inaugurer, en l'occurrence, le monument Prosper de Monzet au Labouret, hein, au col du Labouret. Donc ça, c'était le point d'orgue de la visite, et qui, le lendemain, donc, est venu inaugurer le canal de Chaudol, et qui a d'ailleurs banqueté à la Jabie. Puisque là, le canal Chaudol, c'est la Jabie, c'est la commune de la Jabie, qui a banqueté avec... en fait, il n'a pas arrêté de banqueter, en réalité, hein, puisqu'il avait déjà fait un banquet la veille, le soir et le midi à Digne. Alors, ce qui est intéressant, parce que c'est un peu... Voilà, le canal de Chaudol, c'est aussi une façon de rappeler... Donc ces visites ministérielles hein, qui avaient donc lieu, qui étaient tout à fait courantes, hein, et qui, on voit tout le cérémonial qui est mis en place. Par exemple, on a le menu, vous voyez, du repas de midi à Digne, qui est évidemment, qu'on aimerait tous pouvoir déguster, hein, qui est un menu très, très chargé. Qui d'ailleurs a été qui était proposé au prix de 25 francs hein, pour ceux qui voulaient y participer, et puis qui a été baissé à 20 francs, peut-être parce que c'était peut-être un peu trop onéreux, hein, 25 francs. Et donc, du coup, on a enlevé un plat, hein, on a enlevé un plat de crustacés, voilà. Hein, pour vous, c'est la petite histoire.
Voilà. C'était quelle époque ?
Alors là, on est en 1923.
1923,
alors, c'est important.
25 francs.
C'est une somme assez importante, oui. Ah. Oui, ce n'est pas rien. Oui, alors, même s'il y a eu de l'inflation, ça représente quelques heures de travail pour un ouvrier. Hein, même, voilà. Donc c'est une somme assez importante. Alors il y a du monde hein, qui vient, évidemment, parce qu'un ministre, en fait, les ministres ne se déplacent pas comme aussi souvent que ça. Et le département n'est pas forcément celui vers lequel les ministres à l'époque viennent le plus souvent. Donc c'est une occasion un peu extraordinaire, vous voyez. Hein, donc voilà. Donc on a le programme, on sait exactement ce qu'il a fait, on sait d'où il vient. À quelle heure on vient le chercher, vous voyez, où il passe. Par exemple, là, on photographie avec les enfants de Digne, vous voyez. Je vous dis, c'est vraiment le côté, le père de l'agriculture, vous voyez, donc le côté bon enfant, avec beaucoup de rondeur, vous voyez, c'était un personnage. Alors du coup, je me suis intéressé à sa biographie, hein, c'est un vrai homme politique, hein, de la troisième, hein, avec une carrière absolument, il a été maire très jeune, ensuite conseiller général, etc. Bon, il a été plusieurs fois ministre. C'est un personnage, mais qui a toujours laissé une image très positive. Vous voyez, donc, hein, il avait un côté, je pense, il avait un côté, oui, une certaine rondeur, ce qui fait que, voilà, il n'était pas, il a pas été la cible principale des critiques hein, de ses opposants politiques. Voilà. Donc, c'est intéressant aussi parce que c'est une, comme je disais, c'est une conférence qui est monté en partenariat avec donc l'ASA, qui existe toujours, hein, donc du canal de Chaudol. Donc voilà, donc c'est un peu l'occasion aussi de faire un petit peu une fête. Vous voyez, c'est cette conférence, ma conférence s'insère dans ce projet. Voilà, donc alors on fera pas de banquet, hein, voilà. Hein, c'est, on pourrait peut-être regretter d'ailleurs, hein, mais voilà, c'est vraiment oui, il y a un côté. Moi, j'aime bien ce côté un peu sympathique, vous voyez. Vous savez, faire une conférence, parce que j'en fais beaucoup, je crois que j'en ai quasiment une vingtaine à programmer cette année. C'est toujours... ouais, alors, c'est pas un appel, hein, donc... mais c'est, vous voyez, c'est toujours beaucoup plus agréable quand des fois, il y a un côté un peu artificiel. Vous voyez, on arrive, on fait notre conférence, on repart. Voilà, bon, c'est bien, hein, c'est aussi notre travail, c'est normal. Mais voilà, là, il y a un côté, et on le trouve dans bien des communes, hein, comme à La Jabie, on trouve ce côté tout à fait agréable, où on est bien reçu et on sent qu'il y a quelque chose derrière, vous voyez, on sent qu'il y a vraiment un intérêt pour ces questions-là. Donc là, voilà, c'est l'idéal en fait, hein, c'est la conférence idéale, c'est-à-dire la conférence qui est sollicitée par justement des personnes, et en l'occurrence, donc là, le président, hein, que je remercie encore d'avoir pensé à moi pour cette conférence. Donc c'est, l'entrée est libre, hein, c'est à 18h, donc à la salle polyvalente, le vendredi 19 mai. Voilà, entrée libre, hein, évidemment, dans la limite des places disponibles. Donc voilà, donc c'est vraiment voilà, une très belle occasion. Alors, le banquet, je disais, hein, donc, il avait été organisé. Alors, c'est intéressant aussi de voir comment les choses se font. Qui paye, vous voyez, qui organise. Donc là, en l'occurrence, c'était le canal, en fait, hein, l'ASA qui avait contribué donc à cette avec la municipalité. Hein. La municipalité avait subventionné aussi le repas. C'est évidemment, vous savez, dans ces cas-là, quand il a un ministre qui vient, tout le monde se bat pour l'avoir, en fait. Hein. Donc là, Jabi avait réussi. Alors, c'est un sujet aussi important, parce qu'on est en 1923. On n'est donc pas très loin de la guerre. Hein. Je rappelle que les basaltes ont été particulièrement touchés par la guerre en raison de la disparition de près de plus de 4000 jeunes, souvent de jeunes gens, hein, d'hommes qui ont entre 20 et 27, 28 ans. Hein. Donc, je regarde et souvent, il y a beaucoup de célibataires, en fait, hein, peu d'hommes mariés. Donc, évidemment, il faut relancer l'agriculture. Hein, donc l'irrigation, c'est évidemment un moyen très important qu'on peut mettre en place pour justement favoriser les rendements. Donc vous voyez, il y a aussi un contexte très très particulier. C'est pour ça aussi d'ailleurs que le ministre faisait ses tournées. Hein, c'était justement pour relancer, hein, pour dire il faut repartir, quoi, voilà. Hein, donc voilà. Quatrième conférence.
Là, pour l'instant, on en est presque à une par semaine. C'est riche.
Il y en aura quatre au mois de mai. Oui, ouais. Oui. Tout à fait, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais on ne se rend pas compte quand on les programme, en fait. Hein. Non, il y en a quatre conférences. Oui. Enfin, trois. Attendez, trois ou quatre, je suis perdu, là. Voilà, je suis perdu.
On est à la troisième.
On est à la troisième, ah oui. Non, après, il y a la vie rurale, effectivement. Après, on est... en réalité... je crois que je fais une conférence encore, mais ça va me revenir. Hein, voilà. La vie rurale au Castellet. Donc ça, c'est une lecture d'archives. Et on s'arrêtera avec celle-ci avant la pause. Donc la vie. Donc, alors ça, celle-ci, c'est notre grande thématique. Hein, c'est, hein, je le disais aussi, c'est les lectures d'archives qu'on fait le plus souvent aujourd'hui. Donc c'est celle qui concerne la vie rurale. Donc ça vient évidemment, hein, du travail réalisé et qu'on avait publié par Éric Fabre, hein, donc la vie rurale fin 18e jusqu'au milieu du 20e siècle, un ouvrage qu'on avait publié maintenant il y a quelques années, qui faisait plus de 800 pages, et donc qui nous avait donné l'idée effectivement de partir sur cette thématique. Alors, comme toujours, quand on fait la vie rurale dans un village, il y a à peu près la moitié des documents qui concernent le village, et l'autre moitié qui concerne le département. Ce qui permet, là aussi, hein, de faire des rapprochements, de recontextualiser la situation du village par rapport, évidemment, à l'ensemble du département, qui, je le rappelle, était, puisque là, on est 18e au début du 20e siècle, on est dans un département qui est pauvre, hein, qui est très victime d'un très fort exode rural, depuis les années 1840 et qui va durer jusqu'aux années 1950, hein, donc plus d'un siècle. Donc on est dans un contexte là aussi très particulier, hein, qu'on pourrait d'ailleurs rapprocher de la conférence de La Jabie, hein, où on a les questions évidemment de population, d'hommes qui quittent le monde rural pour aller travailler en ville, etc. Donc voilà, donc c'est important. C'est là aussi fait en partenariat avec une association, hein, Castellum. Voilà, donc ça a lieu au Castellet d'Oraison. Hein. Alors on dit le Castellet d'Oraison pour ne pas confondre, hein, c'est le Castellet. Voilà, dans la salle polyvalente. Le jeudi 8 juin, donc là on est au mois de juin déjà, 2023 à 18h30. Voilà, donc ce sont des lectures d'archives qui ont toujours beaucoup de succès et qu'on continue à faire. Je ne sais plus à combien on est de vie rurale, mais je crois qu'on ne s'arrêtera jamais, puisque chaque village pourrait nous le demander. Alors c'est un travail aussi qui est réalisé à partir évidemment de nos archives, qui sont choisies par le service éducatif, hein, donc nos deux agents hein, qui s'en occupent, hein, nos deux médiatrices. Donc là, il faut aussi les remercier hein, pour tout ce travail. En l'occurrence, nous, notre activité dans ce cadre-là, ce n'est pas nous qui lisons les documents, hein, c'est la mobile compagnie, hein, donc une compagnie hein, qui lit les documents, mais nous, on simplement fournit les documents. Et donc, ce sont ces deux médiatrices hein, qui, non seulement fournissent le tronc commun, lui, ne change jamais, évidemment, mais qui font les recherches dans les archives communales, dans les archives administratives, préfectorales ou sous-préfectorales, etc., qui vont donner les documents à la mobile compagnie. Et qui elle, ensuite, va choisir ce qui l'intéresse et donc va construire un récit qui est chronologique, hein, toujours, pour évoquer donc, ces questions de vie rurale. Et puis, ça marche très bien aussi parce que, pour une autre raison, c'est qu'en fait, on parle vraiment du village. Et souvent, le public, évidemment, soit il est du village, originaire du village, hein, depuis longtemps. Donc évidemment, pour lui, les noms, les lieux, ça lui parle. Et puis il y a aussi les arrivants, les nouveaux arrivants, qui eux aussi découvrent évidemment aussi la richesse hein, d'une vie ancienne hein, qu'ils ne connaissaient pas. Voilà, donc c'est pour ces raisons-là que ces lectures, en fait, sont toujours fort intéressantes et souvent fort fréquentées.
Merci, Jean-Christophe Lavandy. Donc, ces lectures d'archives le jeudi 8 juin, salle polyvalente au Castellet d'Oraison. On fait une pause musicale et on vous retrouve juste après avec Céline Bonnard, j'ai oublié de citer tout à l'heure. Όλα μαζί και το καθένα χωριστά. Μοίρασε ολογυρά σας τα όνειρά μου πάνω στα βάθη γάλαζα νερά. Σκέπασε βράχους και λιβάδια. Αγριολούλουδα και μυρωδικά. Σας πρίκησε με του ήλιου τα χρυσάφια. Απλά χωρίς στολίδια περιτά. Από το ίδιο το χώμα το δικό σας με έπλασε και μένα στοργικά. Για να κοιτώ την ομορφιά σας και να μαθαίνω απ' τη δική σας αρχοντιά. Με μέθησε τη ζερίγανη η σιαγκάλη, με σμίλεψαν με αλάτινο σφυρί. Χάραξε την τροχιά μου μες στη ζέστη, με τροχελίδων σκιά μοναχική.
Απαρνήθηκα νησιά μου και η νοσταλγία μου αδειάζει την ψυχή. Βράχου σκιά με προστατεύει, μου φανερώνει αλφάβητο κρυφό. Αρχαίο κλειδί η ομορφιά σας μου ξεκλειδώνει μονοπάτι φωτεινό. Thank you. κλέψαν μια λάτινο σφυρί. Άραξε την τροχιά μου μες στη ζέστη, πετροχελίδων σκιά μοναχική. Με μέθησε τη ζερυγανή σιαγκάλη, με σμίλεψαν μια λατινό σφυρί. Άραξε την τροχιά μου μες στη ζέστη, πετροχελίδων σκιά μοναχική. Με μέθησε τη ζερυγανή σιαντάλη, με σμίλεψαν μια λατινό σφυρί. Άραξε την τροχιά μου μες στη ζέστη, πετροχελίδων σκιά μοναχική. Με μέθησε τη ζερυγανή σιαντάλη, με σμίλεψαν μια λατινό σφυρί. Άραξε την τροχιά μου μες στη ζέστη, πετροχελίδων σκιά μοναχική.
Jean-Christophe Lavallée.
Oui, alors je disais qu'il y avait quatre conférences en fait au mois de mai. Effectivement, il y en a quatre. J'en étais resté à trois. Mais effectivement, il y en a une quatrième le vendredi 26 mai à Maligey. Ah, donc c'est dans le cadre en fait, je crois que ça fait l'ouverture en fait de trois jours consacrés donc à la résistance, hein, donc durant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est organisé évidemment par Maligey, hein, par la commune et par les associations du patrimoine. Et donc cette conférence s'intéressera, alors là je reviens dans ma zone de confort, et aux acteurs allemands de la répression de la résistance. C'est-à-dire qu'en fait, je vais évoquer tour à tour, évidemment, la Gestapo, hein, ce qu'on appelle la Gestapo, qui est en réalité la CIPOSD, hein, donc qui était donc où il y avait un bureau à Digne, hein, qui était à la Villa Marie-Louise, enfin à la Villa Perrette d'abord, puis à la Villa Marie-Louise, qui avait donné d'ailleurs lieu à une conférence il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et puis, évidemment aussi, l'armée allemande, donc la Wehrmacht, hein, donc l'armée de terre, la R, et puis la fête gendarmerie, hein, donc la gendarmerie au champ, qui était aussi un des acteurs principaux de la répression. Et puis enfin, et surtout, la 8e compagnie Brandebourg, que j'évoquerai aussi dans une conférence aux archives départementales début juillet. Voilà. Donc cette conférence, elle a lieu donc à 18h, le 26 mai, salle Bergeroux, donc à Maligey. Voilà. Donc on a bien nos quatre conférences au mois de mai. On en était donc, on avait fait notre lecture d'archives, qui était donc au Castellet, hein, donc au Castellet d'Oraison, donc le 8 juin. On aura aussi une conférence aux archives départementales. Alors vous savez qu'on a, dans le cadre d'une coopération avec le service départemental d'archéologie, hein, donc on fait la transversalité, vous voyez, on est en pointe, hein, donc sur ces sujets. Donc on présente une exposition depuis maintenant quelques mois sur le résultat des fouilles, hein, qui avait été réalisé par ce service lors de la construction du gymnase du collège Borély. Voilà, donc un vivre digne au 1er et 3e siècle. Donc c'est une conférence qui sera prononcée par Jenny Selleck, hein, qui est une archéologue du service départemental, qui est évidemment fort intéressante. Hein. Moi, je l'ai écoutée plusieurs fois, donc en conférence, mais aussi dans des visites aux archives départementales. C'est tout à fait passionnant. C'est une histoire qu'on connaît mal, où il y avait beaucoup d'inconnus encore. Hein, on avait une histoire très fragmentaire, un peu très limitée, où il y avait des hypothèses qui n'étaient pas forcément les bonnes. Et donc là, évidemment, ces fouilles remettent un peu en question ce qu'on savait sur le peuplement de Digne à cette époque, enfin de Digne, Digna, en fait, en l'occurrence. Et donc, voilà, vraiment, c'est à entendre. C'est une conférence qui s'intéresse évidemment à partir des objets, hein, qui ont été découverts et des objets, mais aussi évidemment du site, hein, lui-même, hein, des constructions, des restes de construction, etc., qui s'intéresse eh bien, au mode de vie de ces hommes, qui s'intéressent donc aux questions domestiques, aux questions artisanales, aux questions rituelles, aux questions funéraires, aux questions économiques. Enfin, en gros, la vie, quoi. Voilà, hein, la vie de ces habitants. Hein, qui nous ont précédés sur le site. Voilà. Et donc ça, c'est pour c'est le jeudi 15 juin 2023 à 18h aux archives départementales. Voilà. Donc, j'imagine que à l'issue de cette conférence, il y aura une petite visite guidée, évidemment, par Jenny Selleck de l'exposition elle-même, que nous allons garder normalement jusqu'au mois de novembre, hein, je crois, début novembre. Hein, on fait un peu de prolongation. On avait prévu normalement de l'arrêter en septembre. Puis finalement, cette conférence trouve son public. Hein, enfin, cette exposition, pardon, trouve son public. Et donc, du coup, on continue. En plus, je le dis aussi, nos deux médiatrices, enfin, et le service archéologique, d'ailleurs, hein, surtout le service archéologique, et en particulier son chef de service, organise aussi, on organise avec eux régulièrement des visites scolaires. Hein, donc, il y en a une bientôt, je crois, d'ailleurs, qui est programmée pour visiter, donc pour expliquer en fait. Hein, donc il y en a une juste avant les vacances là, qui était tout à fait intéressante, hein, où il y a à la fois, hein, donc pour les enfants, c'était des enfants du collège Borély, hein, qui a à la fois la visite de l'exposition, la partie archéologique, j'allais dire, hein, puisqu'il y a à la fois les objets, mais aussi les panneaux, et puis aussi la visite des archives et la présentation de documents anciens. Voilà, donc vous voyez, on mélange les deux, ce qui fait qu'en fait, on devient des archivistes archéologues, vous voyez, hein, puisque au fond, l'archéologie, c'est aussi un peu les archives du sol, hein, en fait, hein, d'une certaine manière, voilà. Donc on combine les deux et ça marche très très bien. Et donc on ne regrette pas d'avoir accueilli cette très très belle exposition qui nous change aussi un peu de notre ordinaire. Hein. On est dans des sujets différents. Et puis on sait aussi que durant l'été, là, donc avec les visiteurs, les curistes, etc., ben on aura un public aussi qui viendra regarder, puisqu'on a des fidèles, en fait, hein, qui viennent tous les ans. Voilà, donc vraiment, c'est quelque chose qui est très, très important. Je vais parler aussi d'une autre qui aura lieu aussi au mois de juin, mais là, ce n'est pas nous qui l'organisons. Moi, je fais simplement qu'un participant, hein, donc un animateur, en gros. C'est une démarche qui est proposée tous les ans, et peut-être cette année, peut-être deux fois, qui est organisée donc par l'association Vallée du Besse, hein, Vallée au pluriel du Besse, qui est en fait la descente de la route de Barle, donc à partir en général du Vernet, hein, jusqu'en bas de la Robine, hein, et quelquefois on s'arrête un peu plus tôt, ça dépend le temps qu'on met, où il y a donc, alors c'est quelque chose qui est très très bien organisé, c'est en vélo, hein, donc il faut pédaler, c'est un samedi. Ça commence le matin, ça finit en fin d'après-midi. Ce n'est pas difficile parce que vous savez, hein, que la route de Barle, je pourrais en parler pendant des heures puisque on avait fait un travail aussi là-dessus, à une pente qui est de 3%. Donc on est dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on ne monte pas, on descend, même s'il y a deux fois deux, trois petites montées. Donc il n'y a rien de difficile, donc tout le monde peut le faire. On part en groupe et on a des stations, hein, tout au long de cette descente qui sont proposées par... alors, il y a la station, les stations culturelles, par rapport, évidemment, à toutes les œuvres d'art, hein, qu'on peut rencontrer. Il y a des parties géologiques, hein, qui est évidemment fort importante dans cette vallée, puisque c'est presque un modèle, en fait, en l'occurrence. Il y a la partie vie rurale, hein, qui est proposé aussi, où on apprend l'histoire des gens qui y habitaient, etc. Il y a aussi la partie route elle-même, hein, puisque la route de Barle, hein, c'est un projet de 1913, hein, donc elle a été inaugurée en 1913, c'est un projet plus ancien, puisqu'elle a été inaugurée en 1913. On avait d'ailleurs participé au centenaire, hein, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on avait fait la rencontre de cette association Vallée du Besse, hein, puisqu'on avait fait ensemble un petit fascicule, et la vallée avait fait réaliser un document vidéo, hein, qui est sur ce sujet-là. Voilà, donc il y a, et puis donc il y a la route elle-même, et puis pour ma part, moi je parle de la route, puisque je veux parler de ce que je sais en fait, évidemment, je ne vais pas parler pour les autres, hein, qui sont fort compétents dans leur domaine. Moi je m'occupe en fait de la question de la route elle-même, donc de sa construction, et puis des monuments morts, hein, puisque c'est aussi l'occasion hein, de rappeler eh bien, le lourd tribut hein, payé par ces communes, hein, je pense à Barle par exemple, mais aussi aux autres, hein, qui ont perdu une population fort importante d'hommes hein, donc, à cause de la guerre. Voilà. Et puis en plus, le monument aux morts de Barle est appelé atypique aussi, donc il est intéressant, mais je ne fais pas que celui-ci, hein, je fais plusieurs monuments très modestes aussi, hein, on peut dire beaucoup de choses sur les monuments, même s'il n'y a pas grand-chose a priori à dire, en réalité, on peut toujours creuser. Voilà, donc ça c'est...
La route se fait de d'où à où alors ?
Alors en fait, en général, on part du Vernet, on part du café, là, vous savez, qu'il y a à l'entrée sur la route.
Oui, c'est le restaurant du Moulin.
Voilà, exactement, voilà. On part de là, en général. Alors, mais en fait, moi j'invite les personnes qui seraient intéressées à aller sur le site, hein, tout simplement, le site de l'association Vallée au pluriel du BES, hein, B-E accent grave S, hein, puisque tout est indiqué, il faut les appeler, il faut s'inscrire, hein, on vient pas comme ça, hein, puisque on est quand même sur une route, on peut pas être trop nombreux, voilà, donc il y a un nombre limité, donc j'invite tous ceux qui s'intéressent à ce projet de contacter l'association. Et en général, on va, je vous dis, on fait l'Iskosor, on va un peu plus loin, en fait. En général, même, je crois qu'on s'arrête maintenant sur le parking de l'Iskosor, voilà. Hein, donc, voilà. Quelquefois, on allait jusqu'à la Robine, ça dépend, jusqu'en bas de la Robine. C'est très variable, ça dépend aussi du temps, ça dépend du nombre d'intervenants, de la qualité des intervenants, oui, hein, y a plusieurs facteurs qui jouent, voilà. Mais en tout cas, c'est très facile, hein, ça descend, voilà. Donc, ça, c'est le plus important, et puis ça fait un grand bol d'air. On a toujours eu de la chance, moi, je le fais depuis donc maintenant plusieurs années, on a toujours eu de la chance, je crois qu'on a toujours eu du beau temps, je réfléchis, oui, je crois qu'on est toujours passé à travers les gouttes, donc franchement c'est une très très belle expérience, voilà, donc c'est à faire, quoi, vraiment, et c'est une très belle découverte du département dans tous ses aspects, voilà. J'en suis, en parlant d'exposition, comme chaque année depuis maintenant, c'est la 14e exposition qui sera donc proposée à la cathédrale Saint-Jérôme à Digne-les-Bains. Donc du mercredi 5 juillet au samedi 30 septembre. Donc une exposition qui s'intéressera, qu'on a nommée de manière provisoire « Trésor d'orfèvrerie ». Hein, qui présentera des objets absolument incroyables, magnifiques, d'art religieux. Je pense par exemple à la chasse de Beaujeu, hein, qui est l'un des objets les plus anciens du département, et peut-être un objet emblématique en même temps, vous voyez, donc, hein, qui a été produite à Limoges, qui est modeste dans ses dimensions, qui est mais qui a un très très beau décor, qui a une couleur bleue qui est profonde, vous voyez, enfin vraiment, et qui a traversé le temps. C'est aussi ça qui est remarquable. Voilà, donc de la chasse de Beaujeu, je pense aussi à la croix de procession d'Entrevennes, hein, qui est aussi donc qui est fin du Moyen Âge, qui est donc un peu plus récente, qui est un objet religieux absolument aussi incroyable, qui a un décor magnifique, très ouvragé, qui est très très lourde. Hein. En fait, ce sont des croix qui ont une âme en bois, hein, donc sur lesquelles on a fixé des plaques, souvent d'argent, hein, qui sont gravées. Voilà, vraiment. On va présenter des objets absolument étonnants qui sont montrés et qui sont aussi commentés. Hein, on fait toujours une publication qui accompagne cette exposition. Et là, je remercie évidemment Maïna Masson-Lethier, hein, qui est conservateur en chef au service régional de l'inventaire, hein, de la région Sud, qui fait un travail formidable, qui est vraiment une spécialiste. Hein, je suis épaté chaque année, parce que ça fait plusieurs années qu'on collabore, en fait, hein, qu'on coopère. Je suis toujours épaté par la qualité de ses connaissances, vraiment. Donc elle apporte vraiment vraiment quelque chose de supporter. D'ailleurs, à tel point que c'est quasiment elle qui fait tout le travail, quoi. Oui, pour vous dire, pour dire les choses clairement. C'est-à-dire que si elle n'était pas là, on aurait beaucoup de difficultés à faire et on ferait évidemment pas aussi bien. Voilà. Donc, je pense aussi à Marie-Christine Braillard, hein, que certains connaissent puisqu'elle a été conservatrice départementale pendant quelques années. Et qui, depuis sa retraite, hein, maintenant qui remonte à quelques temps aussi, participe chaque année aussi à cette exposition. Alors elle s'intéresse plus. Alors on s'intéresse tous aux objets, évidemment. Hein. Moi, je commente la chasse de Beaujeu parce que voilà, je l'avais déjà fait et je continue à le faire. Voilà. Donc chacun commente des objets. Donc l'essentiel, vous avez compris, hein, que c'est revient à Madame Masson-Lethier. Mais aussi, on s'intéresse aussi à la question historique, évidemment. Hein, on recontextualise. Comme ces objets, en fait, sont en dépôt aux archives départementales, je vais aussi, moi, je fais une présentation, justement, de ce dépôt, comment il a été constitué, son histoire, etc. Voilà. Donc, vraiment, vraiment, il y a des objets absolument incroyables, hein, des trésors, vraiment, pour le coup, hein, des pépites, hein, pour reprendre le mot pour reprendre un mot qu'on peut évidemment tout à fait utiliser à cette occasion. Voilà, donc, des pépites l'inauguration. Hein, puisqu'elle sera inaugurée, elle aura lieu le mercredi 5 juillet à 17h30. Voilà. Et ça sera aussi l'occasion donc, de visiter la cathédrale, hein, pour ceux qui ne la connaissent pas. C'est aussi, puisqu'on est ouvert quand même tous les jours, hein, du 5 juillet jusqu'au 30 septembre, de 15h15 à 18h. Y compris de 13h15 à 18h, y compris les samedis, dimanches, les jours fériés. Vous voyez, donc c'est vraiment du non-stop. Hein, et voilà, donc vraiment, c'est une très très belle occasion. Voilà, on revient sur les conférences, hein, puisque là, on arrive au mois de juillet. Hein, on était donc le 5 juillet. Et bien, le lendemain, le 6 juillet, hein, voilà, donc je vais proposer donc une conférence aux archives départementales à 18h. Donc, j'en fais toujours une, hein, le premier jeudi du mois de juillet.
Voilà. C'est donc, toujours 18h, c'est pas 18h30.
Non, c'est 18h, oui, toujours. Oui, oui. Ouais, 18h30, c'est un peu tard, souvent. C'est un peu. Puis là, on est pendant les vacances, donc c'est un peu plus facile pour les personnes. Voilà. Et en général, les gens, même celles qui travaillent, réussissent à venir à nos conférences. Donc c'est la 8e compagnie Brandebourg et la représentation de la résistance, hein, ce que j'évoquais plus tôt tout à l'heure, hein, donc 1943-1944. Donc là, c'est un sujet que je continue à. Vous savez, il y a des. C'est un sujet que j'ai déjà traité plusieurs fois. Mais que je continue évidemment à approfondir, vous savez, hein, on trace son sillon et puis après on creuse, hein, et on évidemment et plus on creuse et plus on s'aperçoit de la complexité des sujets et un peu de la vanité de nos affirmations, hein, voilà. C'est, voilà, pour dire les choses aussi, hein, on dit quelquefois quelques bêtises, voilà, et on s'en rend compte après, voilà, où on extrapole en croyant faire des belles hypothèses qui ont été s'effondrent très très vite, hein, à l'expérience, à la confrontation avec les archives, hein, qu'on redécouvre, voilà. Donc ça, c'est le 6 juillet, donc aux archives départementales. Voilà, donc là, pour le coup, on va voir. Alors, un petit mot sur la 8e compagnie Brandebourg. Hein, c'est une compagnie qui est constituée de. Qui est une compagnie donc des services secrets de l'armée allemande, hein, de l'Abwehr, qui est constituée donc en gros de quelques centaines d'hommes. L'encadrement est allemand. Souvent des Allemands nés à l'étranger, donc qui parlent des langues étrangères, hein, parlent pas seulement l'allemand, et qui est formé à la base par des Français, des Français collaborateurs pour le coup, là, vraiment, hein, ce qu'à la Libération on a considéré comme des traîtres, hein, donc puisqu'ils ont travaillé pour une puissance ennemie, étrangère et ennemie en l'occurrence, et qui donc a pour mission de, eh bien, de d'infiltrer la résistance. Alors, quand je dis la résistance, c'est les maquis hein, en particulier, et de les détruire. Donc, ils font les deux, ils infiltrent et ils détruisent. Et donc, ce sont. C'est une répression particulièrement féroce, hein, vraiment l'une des pires hein, qu'on puisse imaginer. On a toujours, vous savez, l'image de la milice. Hein, donc la milice, là, pour le coup, ça dépend du gouvernement français. Et ce sont des, évidemment des fanatiques. Mais les miliciens en comparaison avec les soldats de la 8e compagnie Brandebourg, hein, sont très en deçà. Hein, vraiment, là, on a vraiment c'est des tueurs, en fait, hein, vraiment, torturent, tuent, etc. Voilà. Puisque leur but, c'est d'éradiquer la résistance. Hein. Ce n'est pas tellement de faire des prisonniers, c'est pas leur sujet. Voilà. Ensuite, eh bien, avec l'association, alors là, organisée par l'association Culture et Patrimoine de Torrambas, je proposerai une conférence à l'église Saint-Pierre-Aulien à 18h le 21 juillet, le vendredi 21 juillet, donc à 18h hein, toujours.
Quelle est cette église ?
Alors c'est une église qui dans le hameau qui précède Toram. En fait, hein, vous savez que Toram Basse, il y a plusieurs hameaux. Quand vous prenez la route pour aller à Toram, vous passez, alors j'ai oublié le nom du lieu, mais vous passez devant, donc vous ne pouvez pas la louper. Quoi, voilà. Donc l'église Saint-Pierre-Aulien, 21 juillet à 18h. Donc là, c'est un sujet que je connais bien maintenant aussi, qui sont les brigands. Hein, le brigandage et les brigands, dans une période très courte, hein, puisque c'est celle de la fin de la Révolution, donc la fin du Directoire et le Consulat, 1804, hein, donc 1798-1804. C'est un sujet que j'avais abordé lors du premier confinement. Hein, c'était mon feuilleton. Hein, je proposais chaque jour un feuilleton. Donc c'est un sujet que j'ai découvert en m'intéressant aux questions criminelles, hein, tout simplement, hein, à partir de l'affaire de l'Ours. Hein, je suis parti après dans les années 30, et puis j'ai remonté le temps. Vous savez, hein, c'est un peu le principe des historiens et des archivistes. Hein, on tire le fil. Et puis j'étais arrivé à ce sujet, alors qui était connu quand même, hein, qui avait été étudié par certains historiens, mais qui avait été un peu oublié. La Révolution, de toute façon, depuis, on va dire, le bicentenaire, c'est un peu, ce n'est plus tellement un sujet qui intéresse ni les historiens, ni le public, hein, puisqu'on a été un peu, pour prendre une expression un peu populaire, un mot populaire, gavé un peu hein, à l'époque. Voilà, donc c'est vraiment un vrai sujet. Là aussi, on a affaire à des hommes très féroces, hein, certains des vrais tueurs, et surtout... ce qu'on n'imagine pas, c'est qu'ils mettaient en coupe réglée les campagnes basalpines, hein, à peu près partout, et qu'ils ont été éradiqués grâce à l'activité militaire, civile, politique, etc. Enfin, et la population, évidemment. Voilà. Donc là, c'est vraiment un sujet à découvrir, quoi. Voilà. Hein, les figures de brigands et une figure de brigande, hein, évidemment. La belle marchande hein, qui a inspiré Jean Genet aussi hein, pour des nouvelles puisque Jean Genet a écrit aussi sur les brigands en s'inspirant des documents judiciaires publiés à l'époque hein, donc, où il reprend en fait quelquefois même quasiment textuellement les propos qui étaient échangés par livrés hein, par ceux qui étaient interrogés parce qu'ils étaient des brigands voilà. Je continue donc tour l'été, en fait. Hein. Je pense, oui, par exemple, je vais faire aussi une conférence toujours au mois de juillet, le 27 juillet, donc la semaine d'après. Donc c'est la route de la transhumance. Donc là, c'est aussi un sujet qu'on a abordé, vous savez, qu'avec la Routeau, hein, donc le GR donc, hein, qui a été inauguré... maintenant depuis quelque temps, qui traverse, donc qui part du pays d'Arles et qui va jusqu'en Italie hein, et qui traverse donc les Alpes de Haute-Provence. Donc je propose donc une conférence sur cette route de la transhumance, puisque nous, on s'était intéressé évidemment à la partie basalpine à l'époque. Donc c'est organisé là aussi par une association. Ça fait, je crois que c'est ma quatrième conférence avec cette association qui s'appelle « Sur les chemins de la Rabasse et du patrimoine ». Là, c'est en plein air. Hein, c'est l'idéal, hein, vraiment. Vous voyez, c'est la conférence de l'été, quoi, vous voyez. Hein, c'est très, très agréable. Montagnac-Montpezat. À la chapelle Saint-Christophe. Alors c'est devant la chapelle Saint-Christophe, hein, puisqu'on est en fait dans un pré, hein, en l'occurrence. En général, je monte sur un petit monticule, vous voyez, et je parle fort. Vous voyez, voilà, et donc les personnes sont assises devant moi, certaines sont assises dans l'herbe, vous voyez, c'est tout à fait sympathique. Donc là, il y a entrée libre dans les limites des places disponibles, le sujet ne se pose pas, puisque le pré est très grand, vous voyez, donc on est en plein air, donc il n'y a pas tellement de problèmes. Voilà, donc c'est vraiment, là aussi, alors là c'est pareil, ça rentre dans le cadre de plusieurs journées en fait, hein, c'est pas, il n'y a pas que cette conférence-là, hein, chaque année. C'est le cas du Festival de l'Histoire de Montagnac-Montpezat, voilà exactement. Et cette fois-ci, c'est à 18h30, voilà, puisque là, on est en été, et ça se termine après par un petit repas pris en commun. Chacun amène son petit pique-nique, et ensuite, on partage, voilà. Donc, c'est tout à fait sympathique.
Alors, vous me rappelez, voilà. C'est le festival, dans le cadre
Alors,
du festival.
Alors, c'est dans le cadre du Festival de l'Histoire de Montagnac-Montpezat. C'est organisé par l'association Sur les chemins de la Rabasse, et du patrimoine. C'est donc devant la chapelle Saint-Christophe. Donc c'est à l'entrée, en fait, hein, l'une des entrées du village. C'est le jeudi 27 juillet à 18h30. Et le lendemain, je fais une autre conférence devant un monument aux morts. Alors là, c'est organisé par... c'est dans le cadre des rencontres du patrimoine, qui sont organisés par la communauté de communes Alpes-Provence-Verdon, voilà, qui organise donc, qui propose en fait, qui propose beaucoup d'activités culturelles en fait, hein, en l'occurrence. C'est à 18h le vendredi 28 juillet. Et le rendez-vous, puisque là on va faire deux choses en même temps, on va faire deux choses en réalité, on va faire à la fois l'église, donc l'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Castellet-les-Sauces, mais aussi le monument qui est pas très loin. Donc on a rendez-vous place du village à 18h le vendredi 28 juillet, et donc je traiterai à la fois.
Quelle ville, pardon ?
Alors c'est au Castellet-les-Sauces. Donc là on est. Vous voyez, on est dans un des bouts du département, hein, en allant vers Entrevaux. Donc ça sera là aussi donc, une présentation de l'église. Hein, donc ça, j'ai déjà commencé. Et du monument aux morts, celui-ci est fait, hein, puisque j'ai déjà... Vous savez que je prépare un ouvrage sur les monuments aux morts, donc il est déjà écrit sur ce monument. Qui est dans mes souvenirs à une des entrées du village, enfin immédiatement à l'entrée du village, je crois, sur la gauche, mais c'est vraiment, je suis pas sûr de mes souvenirs, hein, vraiment. Voilà. Et pour terminer, alors j'en ferai aussi une autre qui sera organisée par, donc là c'est une histoire de hier, oui, donc c'est très récent, qui sera organisée par l'association Au fil du Coulon, en fait, hein, dans un cadre très particulier, qui sans doute portera sur le monument d'Anotte. Donc ça sera durant l'été, mais là pour le moment on n'a pas encore fixé de date. Voilà, parce que là ce n'est pas moi qui l'organise évidemment. Et voilà, mais ça sera là aussi devant le monument. Voilà, et en soirée. Hein. J'avais été d'ailleurs à une conférence qui avait été organisée par des archéologues qui était passionnante sur ce sujet. Voilà, et puis enfin, le 17 août 2023 à 18h à Seynes, au Fort Vauban. Il y aura une conférence qui sera prononcée cette fois-ci par Sylvie Deroche. Alors Sylvie Deroche, elle est professeure d'histoire-géographie au collège Borédy. Elle est détachée au service éducatif, hein, où elle fait un travail très important. Et elle proposera donc une conférence sur un sujet là aussi très grave qui porte sur les enfants cachés du Fangais. En 1943 à 1944, donc vous avez compris, hein, les enfants évidemment qu'on protégeait des Allemands et des nazis. Hein, donc voilà, donc vraiment, j'invite tout le monde à venir écouter cette conférence. C'est intéressant parce que ça rappelle aussi l'implication de certains basalpins, justement, à la fois dans la résistance, mais aussi dans la protection des enfants juifs. Voilà, voilà, j'en termine là, peut-être, puisque je crois que c'est l'heure.
C'est tout à fait l'heure, mais bon, on peut prendre encore 2 minutes si vous voulez.
Juste pour spécifier les auditeurs, auditeurs peuvent retrouver toutes ces informations sur le site des archives départementales www.archives04.fr.
Merci Céline Bonnard et Jean-Christophe Labadie pour cette histoire d'archives encore fort intéressante sur l'actualité et votre actualité. Bonne journée, merci et au mois prochain.
Oui, au mois prochain, bien sûr. Au revoir et au revoir à tous.
Au revoir. Merci.